Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Et nous allons commencer par élire notre secrétaire de séance. Et je vous propose Madame Laurence Turchini, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous indique les procurations que j'ai reçues. Donc Sylvette Gilles a donné procuration à Christine Winkelmann. Gérard Thon a donné procuration à Jean-Luc Dacosta. Et Jean-Baptiste Savin a donné procuration à Françoise Villelouvet. Et malheureusement, M. Jean-Michel Marlot n'est pas là puisque son papa est malheureusement décédé cette nuit. Vous avez reçu le procès verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous en remercie. Je vous fais part aussi de la démission de M. Pascal Gilles. Je vous lis sa lettre, qui est toute simple. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Camaret depuis les dernières élections, je souhaite aujourd'hui me retirer de cette fonction pour raison personnelle. Par conséquent, je vous adresse par la présente ma démission du conseil municipal à compter de la réception de cette lettre. Je laisserai en mairie mon badge et prendrai toutes les dispositions nécessaires pour transmettre toutes les informations utiles à mon successeur. Je vous remercie de votre confiance durant ces quelques années et souhaite beaucoup de succès à l'équipe en place. Et donc, nous accueillons pour le remplacer Monsieur Claude Chevalier, ici présent. Voilà. Bienvenue au conseil municipal, Claude. Je vous demande aussi de bien vouloir accepter d'ajouter à l'ordre du jour une deuxième motion concernant la maison de retraite de Sainte-Cécile-les-Vignes qui malheureusement fait l'objet d'un projet de la part du conseil départemental de fusion avec la maison de retraite de Sablé, une fusion qui me paraît tout à fait néfaste. Et dans la mesure où elle concerne le territoire de la communauté de communes Aigues-Oraison-Provence, eh bien, je pense que toutes les communes de la CCEP vont adopter cette motion. Donc, si vous voulez, on rediscutera du fond tout à l'heure, mais là, déjà, il nous faut accepter le principe d'un rajout à l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous passons à l'ordre du jour avec le dossier numéro 1, emprunt contracté par la commune de Camaret pour le financement de l'aménagement de 4 logements communaux. Rapporteur Liliane Diaz.
Merci. Pour assurer la réalisation et le paiement des travaux d'aménagement de 4 logements communaux, il est nécessaire de recourir à un emprunt. Le montant de cet emprunt a été fixé à 245 000 euros, compte tenu du coût de réalisation de ces travaux et des subventions envisagées. Plusieurs établissements de crédit ont été consultés. Au regard de l'analyse des propositions, il est proposé au conseil municipal de retenir la proposition suivante. Prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, dont les caractéristiques sont les suivantes. Montant du capital emprunté, 245 000 euros. Durée d'amortissement, 15 ans. Taux d'intérêt fixe à 0,88%. Frais de dossier, 0,15% flat. Profil amortissement, échéance constante. Périodicité retenue annuelle. Échéance annuelle d'un montant de 17 506,70 €. Coût total du crédit, 262 600,51 €. Remboursement anticipé. Possibilité moyennant, uniquement pour le réaménagement par emprunt amortissable, le versement d'une indemnité de 2 mois d'intérêt assortie d'une indemnité actuarielle. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 148 de la réglementation des marchés publics, vu l'avis de la Commission des finances réunie le 18 septembre 2018, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer le contrat de prêt avec le Crédit Agricole aux conditions ci-dessus mentionnées et d'autoriser M. le maire à procéder ultérieurement sans autre délibération et à son initiative aux diverses opérations prévues dans les contrats et recevoir tout pouvoir à cet effet. Derrière a été joint la proposition de financement du Crédit Agricole avec les trois taux et les trois propositions de durée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Brancorsini.
Le bouton rouge, je souffle.
Non, faut pas jeter. Hein.
On appuie sur le rouge.
Oui.
Et attendre un petit peu.
Je viens de le dire. Oui, non, juste une petite, deux questions. La première, quel est le montant total des travaux ? Parce qu'il y a un prêt de 55 000, sur combien de montant des travaux ?
245, oui, c'est pareil.
Bah, le même montant, 100%.
Oui.
Okay. Et deuxième question, est-ce que ces logements, qui sont des logements communaux, vous donneriez une priorité aux habitants de Camaret, et vous engagez à le faire? Ok, parfait. Non, quand je dis habitants de Camaret, pas ceux qui arrivent la veille, hein, ceux qui sont là depuis longtemps. D'accord, merci.
Merci, c'est du bon sens pour nous. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 2. Communauté de communes Aigouvaise en Provence, convention de mise à disposition de locaux pour la maison des vins et des produits du terroir et d'un espace vélo. La commune de Camaret-sur-Aigue souhaite contribuer à la dynamisation de son cœur de ville tout en participant à la mise en valeur du territoire de l'intercommunalité dont elle fait partie, en acceptant de mettre à disposition de la communauté de communes Aigouvaise en Provence des locaux si sur les parcelles cadastrées section AW numéro 87, 89 et 199 pour accueillir la maison des vins et des produits du terroir ainsi qu'un espace vélo. Ces locaux comportent un espace recevant le public ainsi qu'une partie à usage de bureaux administratifs, de stockage, avec une terrasse attenante et un local destiné à l'espace vélo. Vu l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales, considérant les travaux d'aménagement et d'agencement intérieur et en devanture supportés par la CCAP, cette mise à disposition est consentie à titre gracieux par la commune pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2021. Les charges et taxes relatives à l'activité seront supportées par la communauté de communes. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention à conclure avec la CCAP pour la mise à disposition des locaux désignés ci-dessus, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout document y afférent. Alors, donc, vous avez en annexe la convention et nous vous demandons de bien vouloir adopter avec la CCAP. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions. Écoutez, alors je les envoie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le groupe Ensemble pour Camaret, adopté à la majorité. Dossier numéro 3. Mise à jour du tableau de classement d'ouvriers communal, rapporteur Liliane Diaz.
L'article L141-3 du Code de la voirie routière fixe la compétence du conseil municipal pour le classement et le déclassement des voies communales. Suite à la mission de diagnostic confiée au cabinet Bétard, portant sur la mise à jour du tableau de classement des voies communales approuvée lors de la délibération du 11 octobre 1963 et complétée lors de la délibération du 8 décembre 1998 puis du 27 juin 2005 par le conseil municipal, vu l'ordonnance numéro 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, vu la loi 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière, vu le code de la voirie routière, notamment l'article L141-3, vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2131-2, il est demandé au conseil municipal de dénommer la nouvelle place d'entrée de ville place des Filibres, 6 avenue Fernand Gonnet, anciennement parking de la Poste, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Juste une question, vous aviez d'autres propositions que la place des Filibres ou c'est unilatéralement que vous avez décidé ce nom ?
On a eu bien entendu d'autres propositions, mais on en avait plusieurs, mais voilà, ça nous a semblé beaucoup plus symbolique. Place des Filibres par rapport à ce que nous défendons, enfin même si on n'est pas les seuls à défendre l'identité provençale que nous avons déjà marqué en dénommant une salle recevant du public, salle Romanille. Voilà, ça aurait pu être Théodore Obanel aussi. Comment ? à l'école Frédéric Mistral, il y a Il y a des demandes, mais qui sont plus des demandes plus particulières. Bon, je vais pas en parler en conseil municipal, mais qui pourraient se justifier, mais pas forcément à un endroit tel que celui-ci. Bon, on en tiendra compte à l'avenir. Voilà. C'est ce que je peux vous en dire. Oui.
Non, je trouve ça très intéressant. J'ai rien contre. Mais par contre, j'aimerais bien savoir si ici, de parmi nous, ou parmi les camarades, tout le monde sait très bien qui sont les faits libres, quand ça a été créé et pourquoi, par exemple.
Ben, écoutez, voilà, ça sera justement l'occasion d'en parler. Le jour où nous pourrons, par exemple, inaugurer cette place des faits libres dans les conditions correctes, les conditions normales, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et puis, avec les moyens de communication de la mairie, que vous connaissez et que vous lisez, d'ailleurs très attentivement, je l'ai remarqué, par exemple notre bulletin municipal, voilà, on pourrait expliquer ce qui sont les faits libres, ce qu'ils nous ont apporté.
Je pourrais vous aider d'ailleurs, si vous voulez,
Pourquoi pas, c'est ce qu'il faut, voilà, c'est l'occasion de faire parler des faits libres, du fait libre-brige et à nos concitoyens de Camaré.
Oui, c'est très bien, non, tout seulement je pensais que, comme je suis comme vous d'ailleurs, défenseur du patrimoine local, puisque je fais partie de la commission, ça aurait pu être bien que ça s'appelle la place de l'ancien hôpital, parce que ça a marqué quand même Camaré, cet hôpital, qui était un hôpital qui recevait les gens en difficulté, et ça a existé jusqu'à ce que j'arrive à pratiquement au monde, puisque
dans les années 50, c'est existé quand. On aurait pu effectivement intituler la place du nom d'un site ancien, l'ancien hôpital, ça se défendait très bien. Mais on s'est dit aussi que Camaré a beaucoup changé, il y a beaucoup de nouveaux avirons arrivant, il y en a encore, et que voilà, bon. On peut rappeler l'histoire de Camaré par d'autres moyens. On ne manquera pas de le faire. Voilà, donc s'il n'y a pas... Oui, monsieur Nomani.
Oui, alors je vais vous poser une question d'un autre ordre, plus routier, puisque là, vous allez inaugurer, vous avez créé une très belle place, et j'imagine que vous savez que vous avez également créé une rue entre la place et la poste. Puisque la délimitation entre la chaussée n'est pas marquée comme une impasse. Et donc, il n'en demeure que cette rue, qui n'est pas dénommée, entraîne un règlement de priorité à droite sur le code de la route. Vous allez y mettre des vélos, plein de gens vont en sortir. Je pense qu'il est important de traiter cette situation de manière urgente. Parce que si vous avez un accident de vélo qui sort avec la priorité renversée par une voiture, je pense que le mairie va se retrouver dans une situation délicate. Vous avez choisi délibérément de faire une rue en ne mettant pas sortie, ce qu'on appelle en termes vulgaires, bateau. Et donc, c'est une rue qui est là maintenant. Il faudra donc le traiter.
Mais c'était déjà anciennement une rue ?
Il n'y avait que la place, il n'y avait pas de rue à cet endroit-là.
Si, c'est l'avenue Fernand-Mollet.
Non, je parle de la rue qui vous avez créée, là où il y a le parking entre la poste et la place des Filiers.
La sortie du parking.
Oui, mais ça c'est ce que vous pensez, mais la manière dont ça a été réalisé, ce n'est pas une sortie de parking, c'est une rue. Vous regarderez le code de la circulation routière et vous verrez que mettant à niveau la rue qui sort et la rue dans laquelle ça aboutit, vous faites une intersection. Vous avez donc créé une intersection avec deux rues. Et il n'y a pas de réglementation, donc ça applique par défaut à la réglementation du code de la route priorité à droite, qui est particulièrement dangereuse si vous mettez en plus des vélos qui vont sortir, des gens qui vont rentrer et sortir à cet endroit-là. Il est donc important d'y apporter rapidement une réglementation.
Nous allons regarder tout ça.
Je vous en remercie.
L'opposition peut-être...
Mais je n'ai jamais pensé ni dit le contraire, cher collègue. Nous allons regarder ça de très près. Je suis à moitié convaincu, mais bon, on va vérifier. Cela dit, est-ce que nous pouvons passer au vote ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ah, madame Genovet ?
Ah, pardon, oui, on avait décidé de s'abstenir. Vous préférez l'hôpital, vous voyez,
c'est
ça.
D'accord. Non. Abstention du.
Un petit coin, on peut mettre l'hôpital à un endroit, s'il y a un petit détour, vous ferez plaisir comme ça.
Abstention, on regardera si ça ne crée pas une nouvelle rue. Abstention du groupe Ensemble pour Camaré. Dossier numéro 4, nous en arrivons aux motions. Motion de soutien au statut des sapeurs-pompiers volontaires, rapporteur Anthony Mugin.
Le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vaucluse a attiré l'attention du conseil d'administration du SDIS 84 sur l'importance de pérenniser le modèle français de secours, notamment s'agissant de l'application de la directive 2003/88/CE aux sapeurs-pompiers volontaires. En effet, il est rappelé que l'activité de sapeurs-pompiers volontaires n'est pas une activité salariée, que cet engagement citoyen repose sur l'engagement citoyen et qu'à ce jour, l'application d'une réglementation destinée aux travailleurs est incompatible avec la réalité de terrain. Outre l'impact financier insupportable qu'aurait une telle décision sur le budget des SDIS, la mise en œuvre de cette politique induirait inévitablement une baisse significative du nombre de volontaires et aurait un effet regrettable sur la réponse opérationnelle comme sur le concept même d'une société plus responsable et plus résiliente. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de demander au gouvernement et aux parlementaires français de soutenir cette démarche au sein des différentes instances nationales et européennes pour garantir la préservation de notre modèle de sécurité civile qui repose à 80% sur le volontariat.
Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur la directive? Parce que là, franchement, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que nous demande de faire, là? Est-ce qu'on nous demande de salarier les bénévoles? Je ne sais pas très bien. Je ne comprends pas très bien la demande.
La directive MATZAC, qui date de 2003, qui considère que le volontariat est une activité professionnelle. Donc, considérant que le volontariat est une activité professionnelle, l'État français est en droit d'appliquer la directive européenne. Mais il s'avère que ce sont des volontaires. Et si on applique cette directive-là, le système de travail devra être remis à plat et non le système de volontariat. À savoir qu'il devrait travailler 48 heures maximum sur 7 jours avec des repos de 11 heures. À l'heure actuelle, le système de volontariat, il est fait que, prenons un exemple, la personne d'activité professionnelle, s'il peut reprendre son activité de sapeur-pompier, on prend le cas ici sur le village de Camaret, on a des sapeurs-pompiers volontaires, ils sont appelés au BIP. Si on applique cette directive, ils n'ont pas le droit de sortir sur une intervention, car ils devraient appliquer le repos obligatoire de 11 heures.
Et tu veux dire que s'ils ont fait leur activité professionnelle, ils ont un certain nombre d'heures, et les heures supplémentaires, en fait les heures en plus qu'ils feraient qu'ils dépasseraient le nombre d'heures de travailler, c'est ça?
Non, ils n'auraient pas le droit. Tu travailles aujourd'hui, tu commences à 9h du matin, tu
travailles dans ton entreprise.
Oui, tu travailles dans ton entreprise, tu as une activité salariée, tu es volontaire. À l'issue de ton activité salariée, à l'heure actuelle, tu peux être volontaire, mais en appliquant cette directive, tu ne peux plus être volontaire. Tu dois appliquer tes 11 heures de repos obligatoires parce que la directive européenne ne reconnaît pas le volontariat, dit que les pompiers ce sont des salariés.
Oui, merci, j'ai compris. Merci.
Donc, voilà.
Voilà, c'est la faute en Europe.
À ce sujet, monsieur le maire, puisque vous en parlez, si vous permettez, je vais reprendre la balle au bon.
Je vais vous parler.
Merci, monsieur le maire. Cher collègue. Je dis monsieur le maire, mais cher collègue, c'est cette base. Oui, tout simplement, monsieur le maire, à propos de l'Europe, je peux comprendre que vous n'aimez pas l'Europe et que votre parti soit contre l'Europe.
Non, l'Europe actuelle.
Non, j'espère.
La forme d'Europe que nous avons aujourd'hui.
Ça me fait penser. Il faudrait que vous lisiez le monde diplomatique de demain sur la position de Salvini en Italie. Vous verrez que c'est assez rigolo. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne soyez pas contre l'Europe, que vous ayez refusé de mettre le drapeau européen à la fronton de la mairie, c'est votre droit, la loi vous l'autorise. Que vous oubliez de le mettre aux écoles, c'est un peu plus gênant. D'ailleurs, vous l'aviez remis, mais seulement je crois qu'on l'avait enlevé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Par contre, vous avez une obligation, et c'est là que vous n'avez pas respecté. C'était le 9 mai, qui était la journée de l'Europe, et la loi vous oblige à mettre le drapeau, et vous ne l'avez pas mis.
On va porter des oranges? Mais alors, si possible, de Corse.
Si vous continuez comme ça, c'est pas sûr que vous soyez obligé de vous en amener.
Monsieur le maire.
Monsieur le Président, sur la directive, je suis d'accord avec vous, mais elle a quand même aussi un avantage. C'est qu'elle empêche les gens qui travaillent et qui ont fait de longues journées de se retrouver au feu dans des situations de fatigue extrême et d'être amenés par leur chef à quand même être présent sur les incendies. Ce qui est quand même aussi une exploitation un petit peu des pompiers volontaires par les pompiers professionnels, parfois. Il est donc intéressant de regarder le prix de cette directive avant de dire qu'elle est complètement obsolète et dangereuse pour les pompiers volontaires.
J'ai jamais utilisé le terme obsolète ou dangereux. Je mettais simplement, si tous les maires de France, si tous les 10 de France s'insurgent sur cette directive, c'est qu'il y a une raison. À savoir que l'Europe impose sa législation. Si on reprend le code de sécurité intérieure, il est prévu que le corps de sapeurs-pompiers volontaires est un corps indépendant et que c'est un système de volontariat. L'Europe veut imposer un système de salariés. En France, c'est ce qui fait vivre nos petits centres, nos villages, les pompiers, c'est le volontariat. C'est l'âme des pompiers, c'est le volontariat. Vous avez des pompiers volontaires qui sont professionnels à la fois, qui sont professionnels sur un gros centre et qui sont volontaires sur leur village. Qui n'est pas prêt à aider son prochain, soit sur un secours de blessés ou sur un incendie. Tout le monde est capable de le faire. S'ils sont fatigués, s'ils sentent être fatigués, ils n'iront pas au feu, ils n'iront pas au charbon. Ils sont assez intelligents sur ça. Mais par contre, si l'État français était intelligent, depuis 2003, ils auraient mis en place, comme nos amis européens, parce que je vais rebondir sur l'Europe, ils auraient mis un statut paramédical, comme il existe en Italie, comme il existe en Espagne, en Suisse, en Belgique, pour citer les plus proches, où il y a un vrai corps qui a été créé entre le monde de la santé et les premiers secours. Je pense qu'on aura avancé. Nous sommes en 2021, on a perdu 18 ans, hélas.
Vous savez également très bien que le corps de pompiers professionnel n'est pas tout à fait pour ce genre de choses-là. Vous savez.
Oui.
Ils ne sont pas tout à fait pour, donc je ne dirai jamais que les pompiers ne sont pas utiles parce qu'ils sont extrêmement importants à notre société et ils ont un engagement absolument sans limite. Ils sont vraiment à respecter et franchement, c'est des gens que je respecte avec beaucoup, beaucoup d'attention. Par contre, parfois, on les voit allongés au bord des incendies, surtout quand il y a des incendies de forêt, au bout de l'épuisement, et ce ne sont pas des personnes qu'il faut traiter comme ça. Donc cette directive, elle a quand même un intérêt. Alors, tous les maires de France, ok, d'accord, mais tous les maires de France ne savent pas exactement comment les pompiers volontaires sont parfois montrés à la télévision dans des états de fatigue extrême. Et dans ces conditions, ils ne sont pas toujours bien considérés par la population quand on les voit comme ça. Donc, il faut en prendre compte.
C'est votre interprétation.
Ce que vous dites avant, c'est la vôtre aussi, hein, donc on peut changer
notre avis.
Donc je tiens quand même à préciser que l'Europe, bien qu'elle ait de très très bonnes décisions qui vous choquent et qui ne sont pas en accord avec vos visions, sont parfois très utiles.
C'est la vision du volontariat aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être la vision du monde associatif. On dira du fait que vous êtes dans une association, vous avez travaillé, vous n'avez plus le droit d'être dans une association. On peut aller sur cette dérive-là aussi, si vous le souhaitez. C'est l'Europe, en tout cas, c'est pas moi, c'est pas mon souhait.
Mais on peut y aller, et aussi, on ne va pas non plus payer des retraités qui sont dans les associations. Pardonnez-moi. Ils sont déjà payés une fois, donc on ne va pas les payer une deuxième fois. Vous êtes d'accord?
Non, je ne parlais pas sur le système, sur la durée du temps de travail, je parlais. Voilà. On travaille, et après on rentre à la maison, on ne s'occupe plus de son prochain. C'est la nouvelle société de demain.
Bon, nous avons suffisamment débattu là-dessus. Je pense que je peux mettre en voie la motion. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et enfin, l'autre motion, celle-ci pour le maintien de la maison de retraite Les Arcades de Sainte-Cécile-les-Vignes. Le département de Vaucluse et l'agence régionale de santé ont décidé, sans la moindre concertation avec les élus locaux, les personnels soignants, les familles des résidents et les résidents eux-mêmes, de fusionner les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les EHPAD, de Sablé et de Sainte-Cécile, en un établissement unique d'une centaine de lits sur l'une ou l'autre de ces communes. En réalité, ce sera sur Sablé. Ces décisions unilatérales et arbitraires, si elles devaient se confirmer, créeraient tout d'abord un déséquilibre important en matière d'offre de lits sur le bassin de vie de Sainte-Cécile-les-Vignes et sur le territoire de la CCAOP. En effet, à l'heure actuelle, la moyenne de lits par habitant est de 1 lit pour 120 habitants pour la CCAOP, dont fait partie Sainte-Cécile, 1 lit pour 80 habitants pour la communauté de communes Vaison-Ventoux, dont fait partie Sablé. Par ailleurs, la création d'un EHPAD unifié, soit sur la commune de Sainte-Cécile, soit sur la commune de Sablé, se ferait au mépris des bassins de vie des résidents et des familles de ces deux établissements. Les déplacements des Siciliens étant orientés vers Orange et Bologne, ceux des Sablétains vers Vaison-la-Romaine. Enfin, la commune de Sainte-Cécile dispose d'un terrain de 11 200 m², acheté par la municipalité à cet effet, et parfaitement adapté à l'édification d'une nouvelle maison de retraite.
La municipalité est prête à les céder gracieusement afin de permettre la construction de ce nouvel établissement. Ce terrain est situé au sud de la commune, jouxte une zone pavillonnaire à proximité immédiate du collège, du complexe sportif et du complexe du Petit Prince, regroupant crèche, école élémentaire, cantine et centre de loisirs. Si ce projet d'EHPAD unifié devait voir le jour, que ce soit à Sablé ou à Sainte-Cécile, il serait préjudiciable à la fois aux résidents des deux maisons de retraite, à leurs familles, au personnel des établissements et à chaque commune. Il est donc demandé au conseil municipal de soutenir les élus du conseil communautaire de la communauté de communes et voisins Provence dans leur demande solennelle au département de Vaucluse et à Lars, de retrait immédiat du projet d'EHPAD unifié regroupant les maisons de retraite de Sainte-Cécile et de Sablé, le maintien de la maison de retraite de Sainte-Cécile et sa reconstruction sur le terrain que la municipalité a acquis dans cette perspective, l'engagement clair et sans la moindre ambiguïté des candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin dans le canton de Bollène pour défendre la maison de retraite de Sainte-Cécile au sein de la nouvelle assemblée départementale. Si cette motion et celle du conseil municipal de Sainte-Cécile n'étaient pas prises en considération, les ministres ayant pleine autorité sur l'art seront directement interpellés de façon à ce qu'ils fassent respecter les engagements pris par l'État pour le maintien des services publics de proximité. Avez-vous des questions sur cette motion qui me paraît claire, bien rédigée?
Oui, juste une question d'ordre technique. Quel est le pouvoir de la communauté des communes par rapport au conseil régional? Est-ce qu'il y a une compétence?
Conseil départemental.
Au conseil départemental, pardon. Est-ce qu'il y a une compétence qui permet d'entraver le...
Non, malheureusement non. En l'occurrence, je peux le regretter, mais ce n'est pas le cas. Monsieur Lamani.
Une question technique aussi, ça a été voté, on n'a pas la date à laquelle ça a été voté cette décision du conseil départemental?
Non, elle n'a pas encore été prise justement.
Oui, elle sera pas prise d'ici le 27.
Il se pourrait si qu'elle soit prise d'ici le 27 justement.
Ouais, la nouvelle majorité, il mettrait
ouais, ce serait, je parle conditionnel, un engagement du président du conseil départemental actuel. Le dit président ne se représente pas aux élections, il tiendrait à cette décision pour laquelle il s'est engagé vis-à-vis du maire de... Il se serait engagé vis-à-vis du maire de Sablé avant son départ. Donc c'est pour ça qu'on craint que la décision du conseil départemental ne soit imminente.
Oui, mais quand vous allez être élu conseiller départemental, monsieur le maire, vous allez pouvoir apporter tout de suite une correction à cette grave erreur que je reconnais, qui est une grave erreur.
Il est évident que si je suis élu, je participerai à la remise en cause de cette décision.
Ce qui est étonnant, c'est que quand même des candidats de votre parti font partie de la majorité en ce moment au conseil régional. Au conseil départemental, j'y tiens.
Ah non, ils ne font pas partie de la majorité.
Ouais, ils soutiennent la majorité, parce que sans elle, ce serait mal.
Non.
Je dirais que Mme Bompard et M. Yann Bompard font pas partie de votre parti. Mais, enfin,
alors une petite clarification.
Non, mais il s'agit du conseil général.
Départemental.
Général. Alors, ça, départemental ou général, c'est
un
autre chose.
Un petit rappel, chers collègues, en 2015, il n'y avait en réalité pas de majorité. Jusque-là, nous sommes d'accord. Donc, c'est le doyen de l'Assemblée, le maire
Chabert.
De Gordes, Maurice Chabert, qui a été élu au bénéfice de l'âge. Mais il se trouve que s'est mise en place une majorité de fait constituée des Républicains, de La République En Marche, et des élus de gauche de l'Assemblée qui, chaque année, votent le budget. C'est en cela que la majorité existe. Mais il se trouve que les élus du Rassemblement National et ceux de la Ligue du Sud ne votent pas le budget. Eux, ils sont dans l'opposition. Donc, en aucun cas, nos élus du Rassemblement National ne peuvent cautionner cette décision funeste. Qui n'est pas encore prise, mais qui est en voie d'être prise. D'où l'intérêt de voter cette motion rapidement. Alors, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et je ne manquerai pas d'en faire part à mes collègues que c'est à l'unanimité que le conseil municipal a adopté cette motion. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Parce que s'il n'y a pas d'audition diverse, vous avez l'état des décisions du maire ainsi que non, il n'y a pas de préemption, mais il y a les décisions du maire.
Prochain conseil municipal.
Bon, eh bien, écoutez, merci pour votre participation, qui cette fois-ci a été constructive, en effet, n'est-ce pas, M. Normani. Je vous annonce que le prochain conseil municipal aura lieu soit le 29 juin, soit le 1er juillet. Et je vous souhaite une bonne soirée.